Love Me Tender, 24 heures non-stop de lecture de lettres d'amour à la radio. Au début, il y a 5 ans, le concept était simple. C'était un créneau d'une heure pour un lecteur et un musicien.
Sublime, S-U-B-L-I-M-E.
À chaque fois, le musicien qui accompagne, qui vient commenter, qui vient soutenir, qui vient dialoguer avec le lecteur ou la lectrice. Pour cette prochaine heure, ce sera un créateur sonore, si on peut dire. Benoît Bories, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous après être parti à Paris, du côté de France Q, Arte, tout ça. Il revient à la CAFPO ce soir pour accompagner Sébastien Bourdet qui va nous lire un texte de Marguerite Yourcenar. Le premier roman de Marguerite Yourcenar, publié en 1924, si mes souvenirs sont bons, 1929, qui s'appelle Alexis. C'est un roman épistolaire. Je vous laisse découvrir le contenu de cette lettre. Alexis de Marguerite Yourcenar par Sébastien Bourdet et Benoît Bories. Petit problème technique, Love Me Tender, c'est du direct. C'est bon, Benoît? Ok, allez, c'est reparti. Alexis de Marguerite Yourcenar.
Cette lettre, mon ami, sera très longue. Je n'aime pas beaucoup écrire. J'ai lu souvent que les paroles trahissent la pensée, mais il me semble que les paroles écrites la trahissent encore davantage. Et puis, je ne sais pas m'y prendre. Écrire est un choix perpétuel entre 1000 expressions, dont aucune ne me satisfait, dont aucune surtout ne me satisfait sans les autres. Je devrais pourtant savoir que la musique seule permet les enchaînements d'accords. Une lettre, même la plus longue, force à simplifier ce qui n'aurait pas dû l'être. On est toujours si peu clair dès qu'on essaie d'être complet. Je voudrais faire ici un effort non seulement de sincérité, mais aussi d'exactitude. Ces pages contiendront bien des ratures. Elles en contiennent déjà. S'il est difficile de vivre, il est bien plus malaisé d'expliquer sa vie. J'aurais peut-être mieux fait de ne pas m'en aller sans rien dire, comme si j'avais honte ou comme si vous aviez compris. J'aurais mieux fait de m'expliquer à voix basse, très lentement, dans l'intimité d'une chambre, à cette heure sans lumière où l'on se voit si peu qu'on ose presque avouer tout. Mais je vous connais, mon ami, vous êtes très bonne. Il y a dans un récit de ce genre quelque chose de pitoyable qui peut mener à s'attendrir. Parce que vous m'auriez plaint, vous croiriez m'avoir compris. Je vous connais. Vous voudriez m'épargner ce cas d'humilier en explication si longue. Vous m'interrompriez trop tôt. J'aurais la faiblesse à chaque phrase d'espérer être interrompu. Je suis trop coupable envers vous pour ne pas m'obliger à mettre une distance entre moi-même et votre pitié. Il ne s'agit pas de mon art. Vous ne lisez pas les journaux, mais des amis communs ont dû vous apprendre que j'avais ce qui s'appelle du succès. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de quelque chose, non pas vraiment de plus intime, que puis-je avoir de plus intime que mon œuvre. mais qui me semble plus intime parce que je l'ai tenu caché. Surtout de plus misérable. Mais, vous le voyez, j'hésite. Chaque mot que je trace m'éloigne un peu plus de ce que je voulais d'abord exprimer. Cela prouve uniquement que le courage me manque. La simplicité aussi me manque. Elle m'a toujours manqué. Mais la vie non plus n'est pas simple et ce n'est pas ma faute. La seule chose qui me décide à poursuivre, c'est la certitude que vous n'êtes pas heureuse. Nous avons tant menti et tant souffert du mensonge qu'il n'y a vraiment pas grand risque à essayer si la sincérité guérit. Mon enfance fut silencieuse et solitaire, elle m'a rendu timide et par conséquent taciturne. Quand je pense que je vous connais depuis près de 3 ans et que j'ose vous parler pour la première fois, encore n'est-ce que par lettre, et parce qu'il le faut bien. Il est terrible que le silence puisse être une faute. C'est la plus grave de mes fautes, mais enfin, je l'ai commise. Avant de la commettre envers vous, je l'ai commise envers moi-même. Lorsque le silence s'est établi dans une maison, l'en faire sortir est difficile. Plus une chose est importante, plus il semble qu'on veuille la taire. On dirait qu'il s'agit d'une matière congelée, de plus en plus dure et massive. La vie continue sous elle, seulement on ne l'entend pas. Vorohino était plein d'un silence qui paraissait toujours plus grand, et tout silence n'est fait que de paroles qu'on n'a pas dites. C'est pour cela peut-être que je devins un musicien. Il fallait quelqu'un pour exprimer ce silence, lui faire rendre tout ce qu'il contenait de tristesse, pour ainsi dire le faire chanter. Il fallait qu'il ne se servît pas des mots toujours trop précis pour n'être pas cruel, mais simplement de la musique, car la musique n'est pas indiscrète. Et lorsqu'elle se lamente, elle ne dit pas pourquoi. Il fallait une musique d'une espèce particulière, lente, pleine de longues réticences et cependant véridique, adhérente au silence. Et finissant par s'y laisser glisser. Cette musique, ça a été la mienne. Vous voyez bien que je ne suis qu'un exécutant, je me borne à traduire, mais on ne traduit que son trouble, c'est toujours de soi-même qu'on parle. Je cherche à gagner du temps, c'est naturel. Il y a cependant quelque chose de ridicule à envelopper de phrases un aveu qui devrait être simple. J'en sourirais si seulement j'en pouvais sourire. Il est humiliant de penser que tant d'aspirations confuses, d'émotions et de troubles, sans compter les souffrances, ont une raison physiologique. Cette idée m'a fait honte avant qu'elle ne m'ait calmé. La vie aussi n'est qu'un secret physiologique. Je ne vois pas pourquoi le plaisir serait méprisable de n'être qu'une sensation, puisqu'on ne méprise pas la douleur et que la douleur en est une. On respecte la douleur. Parce qu'elle n'est pas volontaire. Mais ce n'est guère le moment de soulever toutes ces questions. Je sens que je deviens très obscur. Assurément, il suffirait pour m'expliquer de quelques termes précis, qui ne sont même pas indécents parce qu'ils sont scientifiques. Mais je ne les emploierai pas. Ne croyez pas que je les craigne. On ne doit plus craindre les choses lorsqu'on a consenti aux choses. Tout simplement, je ne puis pas. Je ne puis pas, non seulement par délicatesse et parce que je m'adresse à vous, je ne puis pas devant moi-même. Je sais qu'il y a des noms pour toutes les maladies et que ce dont je vous parle passe pour être une maladie. Moi-même, je l'ai cru longtemps. Mais je ne suis pas un médecin. Je ne suis même plus sûr d'être malade. La vie, Monique, est beaucoup plus complexe que toutes les définitions possibles. Toute image simplifiée risque toujours d'être grossière. Cette lettre est une explication. Je ne voudrais pas qu'elle devienne une apologie. Je n'ai pas la folie de souhaiter qu'on m'approuve. Je ne demande même pas d'être admis. C'est une exigence trop haute. Je ne désire qu'être compris. Je vois bien que c'est la même chose et que c'est désiré beaucoup. Mais vous m'avez tant donné dans les petites choses que j'ai presque le droit d'attendre de vous de la compréhension dans les grandes. Je ne dis pas que les circonstances me surprirent. Elles s'étaient déjà présentées, sans que je les accueillisse. Mais les circonstances sont ainsi. Elles sont timides et infatigables. Elles vont et viennent devant notre porte, toujours semblables à elles-mêmes. Et il dépend de nous que nous tendions la main pour arrêter ces passantes. C'était un matin. Comme tous les matins possibles, ni plus lumineux, ni plus voilé. Je marchais en pleine campagne, dans un chemin bordé par des arbres. Tout était silencieux, comme si tout s'écoutait vivre. Mes pensées, je vous l'affirme, n'étaient pas moins innocentes que cette journée qui commençait. Du moins, je ne puis me souvenir de pensées qui ne fussent pas innocentes, car lorsqu'elles cessèrent de l'être, je ne les contrôlais déjà plus. Je n'ose vous dire cela que d'une façon très vague. J'allais, je n'avais pas de but, ce ne fut pas ma faute si, ce matin-là, je rencontrais la beauté. Je n'avais pas imaginé tant de simplicité dans ce qui m'épouvantait d'avance. La facilité de la faute déconcertait le repentir. Je rentrais. La tête me tournait un peu. Je n'ai jamais pu me rappeler comment je passais la journée. Le frémissement de mes nerfs fut lent à mourir en moi. Je me souviens seulement de mon retour dans ma chambre, le soir, et de larmes absurdes, nullement pénibles, qui n'étaient qu'une détente. J'avais confondu toute ma vie, le désir et la crainte. Je ne ressentais plus ni l'un ni l'autre. Je ne dis pas que j'étais heureux. Je n'avais pas assez l'habitude du bonheur, j'étais seulement stupéfait d'être si peu bouleversé. Pendant quelques semaines, je vécus les yeux fermés. Je n'avais pas abandonné la musique. Je sentais au contraire une grande facilité à me mouvoir en elle. Vous connaissez cette légèreté que l'on éprouve au fond des rêves. Il semblait que les minutes matinales me libérassent de mon corps pour le reste du jour. Mes impressions d'alors, si diverses qu'elles fussent, sont une dans ma mémoire. L'on eût dit que ma sensibilité n'étant plus bornée à moi seule, se fût dilatée dans les choses. L'émotion du matin se prolongeait dans les phrases musicales du soir. Telle nuance des saisons, telle odeur, telle ancienne mélodie dont je méprise alors, sont demeurées pour moi d'éternelles tentatrices, parce qu'elles me parlent d'un autre. Puis, un matin, il ne vint plus. Ma fièvre tomba. Ce fut comme un réveil. Je ne puis comparer cela qu'à l'étonnement produit par le silence quand la musique a cessé. Je dus réfléchir. Naturellement, je ne pouvais me juger que d'après les idées admises autour de moi. J'aurais trouvé plus abominable encore de ne pas avoir horreur de ma faute que de l'avoir commise. Je me condamnais donc sévèrement. Ce qui m'effrayait surtout, c'était d'avoir pu vivre ainsi, être heureux pendant plusieurs semaines, avant d'être frappé par l'idée du péché. Je cherchais à me rappeler les circonstances de cet acte, je n'y parvenais pas. Elle me bouleversait beaucoup plus qu'au moment où je les vivais. Car en de tels moments, je ne me regardais pas vivre. Je m'imaginais avoir cédé à une folie passagère. Je ne voyais pas que mes examens de conscience m'eussent rapidement mené à une folie bien pire. J'étais trop scrupuleux pour ne pas m'efforcer d'être le plus malheureux possible. Ce qui rend peut-être la volupté si terrible, c'est qu'elle nous enseigne que nous avons un corps. Auparavant, il nous servait à vivre. Maintenant, nous sentons que ce corps a son existence particulière, ses rêves, sa volonté, et que jusqu'à notre mort, il nous faudra tenir compte de lui, céder, transiger ou lutter. L'hiver qui suivit fut un hiver pluvieux, je pris froid. J'étais trop habitué à être un peu malade pour m'inquiéter quand je l'étais vraiment. J'avais, pendant l'année dont je vous parle, été repris par les troubles nerveux éprouvés dans l'enfance. Ce refroidissement que je ne soignais pas vint m'affaiblir davantage. Je retombais malade, et cette fois, très gravement. Ce que je reproche à la maladie, c'est de rendre le renoncement trop aisé. On se croit guéri du désir, mais la convalescence est une rechute, et l'on s'aperçoit, avec toujours la même stupeur, que la joie peut encore nous faire souffrir. Durant les mois qui suivirent, je crus pouvoir continuer à regarder la vie avec les yeux indifférents des malades. Je persistais à penser que peut-être je n'en avais plus pour longtemps. Je me pardonnais mes fautes comme Dieu sans doute nous pardonnera après la mort. Je ne me reprochais plus d'être ému à l'excès par la beauté humaine. Je voyais, dans ces légers tressaillements du cœur, une faiblesse de convalescent, le trouble excusable d'un corps redevenu, pour ainsi dire, nouveau devant la vie. Quand j'allais mieux, je repris mes leçons, mes concerts. Il le fallait car ma maladie avait été très coûteuse. Presque personne n'avait songé à demander de mes nouvelles. Les gens chez lesquels j'enseignais ne s'aperçurent pas que j'étais encore très faible. Dès que je fus capable d'une promenade un peu longue, j'allais chez la princesse Catherine. Le prince et la princesse de Meno passaient alors à Vienne quelques mois chaque hiver. Je crains, mon ami, que leur petit travers mondain ne nous ait empêché d'apprécier ce qu'il y avait de rare dans ces gens d'autrefois. C'était les survivants d'un monde plus raisonnable que le nôtre parce qu'ils étaient plus légers. Le prince et la princesse avaient cette affabilité facile qui suffit dans les petites choses à remplacer la vraie bonté. Nous étions un peu parents par les femmes. La princesse se souvenait d'avoir été élevée avec ma grand-mère maternelle chez des chanoinesses allemandes. J'allais assez rarement à ces soirées intimes. Mais elle me recevait toujours bien. Elle n'avait pour moi, je le sentais, aucun attachement véritable, rien qu'une affection distraite de vieille dame indulgente. Et pourtant, je l'aimais presque. Elle faisait de son mieux pour me former au monde. Elle me prêtait les livres des poètes. Elle les choisissait tendres, superficiels et difficiles. La princesse de Meno me croyait raisonnable. C'était le seul défaut qu'elle ne pardonnait pas. Elle m'interrogeait en riant sur les jeunes femmes que je rencontrais chez elle. Elle s'étonnait que je ne méprise d'aucune. Ses simples questions me mettaient au supplice. Naturellement, elle s'en apercevait, elle me trouvait timide et plus jeune que mon âge. Je lui savais gré de me juger ainsi. Il y a quelque chose de rassurant lorsqu'on est malheureux et qu'on se croit très coupable à être traité comme un enfant sans importance. Elle me savait très pauvre. La pauvreté, comme la maladie, étaient des choses laides dont elle se détournait. Lorsqu'elle me sut malade, elle m'envoya des fleurs. On n'a pas à rougir devant des fleurs d'être sordidement logé. C'était plus que je n'attendais de personne. Je ne croyais pas qu'il y eût sur la terre un seul être assez bon pour m'envoyer des fleurs. Elle avait, à cette époque, la passion de l'île La Mauve. J'eus grâce à elle une convalescence embaumée. Je vous ai dit combien ma chambre était triste. Peut-être, sans les lilas de la princesse Catherine, je n'aurais jamais eu le courage de guérir. Lorsque j'allais la remercier, j'étais encore très faible. Je la trouvais, comme d'ordinaire, devant l'un de ses travaux à l'aiguille, qu'elle avait rarement la patience de finir. Mes remerciements l'étonnèrent. Elle ne se souvenait déjà plus qu'elle m'eût envoyé des fleurs. Les persiennes, chez la princesse Catherine, étaient presque toujours fermées. Elle vivait par goût dans un perpétuel crépuscule, et cependant, l'odeur poussiéreuse des rues envahissait la chambre. On se rendait bien compte que l'été commençait. Je pensais, avec une accablante fatigue, que j'aurais à subir ces 4 mois d'été. Je me représentais les leçons devenues rares, les vaines sorties nocturnes à la recherche d'un peu de fraîcheur, l'énervement, l'insomnie, d'autres dangers encore. J'avais peur de retomber malade, bien pis que malade. Je finis par me plaindre à haute voix que l'été vint si vite. La princesse de Meno le passait à Vende, dans un ancien domaine qui lui venait des siens. Vende n'était pour moi qu'un nom vague, comme tous ceux des endroits où nous croyons ne jamais vivre. Je mis quelque temps à comprendre que la princesse m'invitait. Elle m'invitait par pitié. Elle m'invitait gaiement, s'occupant d'avance à me choisir une chambre, prenant, pour ainsi dire, possession de ma vie jusqu'au prochain automne. Alors j'eus honte d'avoir paru en me plaignant espérer quelque chose. J'acceptais. Je n'eus pas le courage de me punir en refusant, et vous savez, mon ami, qu'on ne résistait pas à la princesse Catherine. J'étais allé à Vendre pour n'y passer que 3 mois. J'y demeurais beaucoup plus de temps. Ce furent de longs mois immobiles. Ils s'écoulèrent lentement, de façon machinale et vraiment insensible. On aurait dit que j'attendais à mon insu. L'existence là-bas était cérémonieuse tout en étant très simple. Je goûtais l'apaisement de cette vie plus facile. Je ne puis dire que Vendre me rappelait Voroino, pourtant c'était la même impression de vieillesse et de durée tranquille. La princesse me nommait en riant son extraordinaire musicien. On exigeait le soir que je me misse au piano. Ces mois passés à Vendre me semblent une longue sieste, pendant laquelle je m'efforçais de ne jamais penser. La princesse n'avait pas voulu que j'interrompisse mes concerts. Je m'absentais pour en donner plusieurs dans de grandes villes allemandes. Il m'arrivait là-bas de me trouver en face de tentations bien connues, mais ce n'était qu'un incident. Mon retour à Vendre en effaçait jusqu'au souvenir. Je faisais usage une fois de plus de mon effrayante capacité d'oubli. Je n'étais pas heureux à Vendre avant votre arrivée. Je n'étais qu'assoupi. Ensuite, vous êtes venu. Je ne fus pas non plus heureux à vos côtés. J'imaginais seulement l'existence du bonheur. Ce fut comme le rêve d'un après-midi d'été. Je savais de vous par avance tout ce qu'on peut savoir d'une jeune fille, c'est-à-dire peu de choses, et de très petites choses. On m'avait dit que vous étiez très belle, que vous étiez riche et tout à fait accomplie. On ne m'avait pas dit combien vous étiez bonne. La princesse l'ignorait. Ou peut-être la bonté n'était pour elle qu'une qualité superflue. Elle pensait que l'aménité suffit. La princesse désirait que je vous admirasse d'avance. Et je vous crus ainsi moins simple que vous ne l'êtes. Vous êtes arrivé à Vendre un jour de la fin du mois d'août, au crépuscule. Je ne me rappelle pas exactement les détails de cette apparition. Je ne savais pas que vous entriez non seulement dans cette maison allemande, mais aussi dans ma vie. Je me souviens seulement qu'il faisait déjà sombre et que les lampes dans le vestibule ne brûlaient pas encore. Ce n'était pas votre premier séjour à Vendre. Ainsi, les choses avaient pour vous une figure familière. Elle aussi vous connaissait. Il faisait trop sombre pour que je distinguasse vos traits. Je m'aperçus seulement que vous étiez très calme. Vous étiez sereine, à la façon d'une lampe. Vous conversiez avec vos hôtes, vous ne disiez que les paroles qu'il fallait dire. Vous ne faisiez que les gestes qu'il fallait faire, et cela était parfait. Je fus ce soir-là d'une timidité pire qu'à l'ordinaire. J'aurais découragé jusqu'à votre bonté. Pourtant, je ne vous en voulais pas. Je ne vous admirais pas non plus, vous étiez trop lointaine. Votre arrivée me parut simplement un peu moins désagréable que je ne l'avais craint, tout d'abord. Vous voyez, mon ami, que je vous dis la vérité. Je cherche à revivre le plus exactement possible les semaines qui nous menèrent aux fiançailles. Monique, ce n'est pas facile. Je dois éviter les mots de bonheur ou d'amour, car enfin, je ne vous ai pas aimé. Seulement, vous m'êtes devenu cher. Je vous ai dit combien j'étais sensible à la douceur des femmes. J'éprouvais près de vous un sentiment de confiance et de paix. Vous aimiez, comme moi, les longues promenades à travers la campagne, qui ne mènent nulle part. Je n'avais pas besoin qu'elles menacent quelque part. J'étais tranquille à vos côtés. Votre nature pensive s'accordait à ma nature timide. Nous nous taisions ensemble. Puis votre belle voix grave, un peu voilée, votre voix trempée de silence, m'interrogeait doucement sur mon art et moi-même. Je comprenais déjà que vous éprouviez envers moi une sorte de tendre pitié. Vous étiez bonne. Vous connaissiez la souffrance, pour l'avoir bien souvent guérie ou consolée. Vous deviniez en moi un jeune malade ou un jeune pauvre. J'étais même si pauvre que je ne vous aimais pas. Seulement, je vous trouvais douce. Il m'arrivait de songer que j'eusse été heureux d'être votre, je veux dire votre frère. Je n'allais pas plus loin. Je n'étais pas assez présomptueux pour imaginer davantage, ou peut-être ma nature se taisait. Quand j'y pense, c'était déjà beaucoup qu'elle se tue. Un jour, que j'avais plus de courage et vous plus de douceur encore qu'à l'ordinaire, je vous avoue que j'avais peur d'être damné. Vous avez souri, gravement, pour me donner confiance. Alors brusquement, cette idée m'a paru petite, misérable et surtout très lointaine. Je compris ce jour-là l'indulgence de Dieu. Ainsi, j'ai des souvenirs d'amour. Ce n'était sans doute pas une passion véritable, mais je ne suis pas sûr qu'une passion véritable m'eût rendu meilleur ou seulement plus heureux. Je vois trop pourtant ce qu'un tel sentiment contenait d'égoïsme. Je m'attachais à vous. Je m'attachais. C'est malheureusement le seul mot qui convienne. Les semaines s'écoulaient. La princesse trouvait chaque jour des raisons pour vous retenir encore. Vous commenciez, je pense, à vous habituer à moi. Nous en étions venus à échanger vos souvenirs d'enfance. J'en connus d'heureux grâce à vous. Par moi, vous en connus de tristes. Ce fut comme si nous avions dédoublé notre passé. Chaque heure ajoutait quelque chose à cette intimité timidement fraternelle. Et je m'aperçus avec effroi qu'on avait fini par nous croire fiancés. Je m'ouvris à la princesse Catherine, je ne pouvais tout dire. J'appuyais sur l'extrême indigence où se débattait ma famille. Vous étiez par malheur beaucoup trop riche pour moi. Votre nom, célèbre depuis deux générations dans le monde de la science, valait peut-être mieux qu'une pauvre noblesse autrichienne. Enfin, j'osais faire allusion à des fautes antérieures, d'une nature très grave qui m'interdisait votre amour, mais que naturellement je ne pus préciser. Cette demi-confession déjà pénible ne réussit qu'à faire sourire. Monique, on ne me crut même pas. Je me heurtais à l'entêtement des gens légers. La princesse s'était une fois pour toutes promis de nous unir. Elle avait pris pour de moi une idée favorable qu'elle ne modifia plus. Le monde, quelquefois trop sévère, compense sa dureté par son inattention. On ne nous soupçonne pas, tout simplement. La princesse de Meno disait que l'expérience l'avait rendue frivole. Ni elle ni son mari ne me prirent au sérieux. Mes scrupules leur parurent témoigner d'un amour véritable. Parce que j'étais inquiet, ils me crurent désintéressé. Que fallait-il faire ? On ose tout dire à une jeune fille, même lorsque son âme est déjà l'âme d'une femme. Les termes m'eussent manqué, j'eusse donné de mes actes une image affaiblie ou peut-être excessive. Tout dire, c'était vous perdre. Si vous consentiez à m'épouser quand même, c'était jeter une ombre sur la confiance que vous aviez en moi. J'avais besoin de cette confiance pour m'obliger, en quelque sorte, à ne pas la trahir. Je me croyais le droit, le devoir, plutôt de ne pas repousser l'unique chance de salut que me donnait la vie. Je me sentais parvenu à la limite de mon courage. Je comprenais que seul, je ne guérirais plus. À cette époque, je voulais guérir. On se fatigue de ne vivre que des formes furtives, méprisées du bonheur humain. J'aurais pu, d'un mot, rompre ces fiançailles silencieuses, juste trouver des excuses. Il suffisait de dire que je ne vous aimais pas. Je m'abstins. Non parce que la princesse, mon unique protectrice, ne m'eût jamais pardonné, Je m'abstins parce que j'espérais en vous. Je me laissais glisser. Je ne dis pas vers ce bonheur, mon ami, nous ne sommes pas heureux. Mais plutôt vers ce crime. Le désir de bien faire me conduisit plus bas que les pires calculs. Je volais votre avenir. Je ne vous apportais rien. Pas même ce grand amour sur lequel vous comptiez. Ce que j'avais de vertu furent les complices de ce mensonge et mon égoïsme fut d'autant plus odieux qu'il se crut légitime. Vous m'aimiez. Je ne suis pas assez vain pour croire que vous m'aimiez d'amour. Je me demande encore, vous avez pu, je ne dis pas vous éprendre de moi, mais m'adopter ainsi. Chacun de nous sait peu de choses sur l'amour tel que l'entendent les autres. L'amour, pour vous, n'était peut-être qu'une bonté passionnée. Ou bien je vous ai plu. Je vous ai plu justement par ces qualités qui croissent trop souvent à l'ombre de nos défauts les plus graves. La faiblesse, l'indécision, la subtilité. Surtout, vous m'avez plaint. J'avais été assez imprudent pour vous inspirer pitié. Parce que vous aviez été bonne pendant quelques semaines, vous avez trouvé naturel de l'être toute la vie. Vous avez cru qu'il suffisait d'être parfaite pour être heureuse. J'ai cru suffisant pour être heureux de n'être plus coupable. Nous fûmes mariés à Vendes, un jour assez pluvieux d'octobre. Je n'étais pas sans inquiétude sur cette existence qui s'ouvrait. Songez que j'avais 22 ans et que vous étiez la première femme qui occupait ma vie. Mais tout, à vos côtés, était toujours très simple. Je vous savais gré de m'effrayer si peu. Mon frère était venu, bien que ce déplacement coûtât cher. Il me remercia avec une sorte d'effusion d'avoir, disait-il, sauvé notre famille. Je compris alors qu'il faisait allusion à votre fortune, et cela me fit honte. Je ne répondis rien. Cependant, mon ami, aurais-je été plus coupable en vous sacrifiant à ma famille qu'en vous sacrifiant à moi-même ? Et maintenant, Monique, il faudrait du silence. Ici doit s'arrêter mon dialogue avec moi-même. Ici commence celui de deux âmes et de deux corps unis. Unis ou simplement joints. Je voudrais seulement comparer mes souvenirs aux vôtres, vivre en quelque sorte au ralenti. Ces moments de tristesse ou de pénible joie que nous avons peut-être trop hâtivement vécus. Cela me revient à la manière de penser presque évanouie, de confidences timides, chuchotées à voix basse, de musique très discrète qu'il faut écouter pour entendre. Nous avions retardé par une sorte de tacite accord l'instant où nous serions tout à fait l'un à l'autre. J'y pensais, d'avance, avec un peu d'inquiétude, de répugnance aussi. Il me semblait que cette intimité trop grande allait gâter, avilir quelque chose. Et puis, on ne sait jamais ce que feront surgir entre deux êtres les sympathies ou les antipathies des corps. Ce n'étaient peut-être pas des idées très saines, mais enfin c'étaient les miennes. Je me demandais chaque soir si j'oserais vous rejoindre. Mon ami, je ne l'osais pas. Puis, il le fallut bien. Sans doute vous n'eussiez plus compris. Je pense avec un peu de tristesse, combien tout autre que moi eût apprécié davantage la beauté, la bonté de ce don si simple de vous-même. Je ne voudrais rien dire qui risquât de vous choquer, encore moins de vous faire sourire, mais il me semble que ce fut un don maternel. J'ai vu plus tard votre enfant se blottir contre vous et j'ai pensé que tout homme, sans le savoir, cherche surtout dans la femme le souvenir du temps où sa mère l'accueillait. Du moins, cela est vrai quand il s'agit de moi. Je me souviens, avec une infinie pitié de vos efforts, un peu inquiet pour me rassurer, me consoler, m'égayer peut-être, et je crois presque avoir été moi-même votre premier enfant. Je n'étais pas heureux. J'éprouvais certes quelques déceptions de ce manque de bonheur, mais enfin je me résignais. J'avais en quelque sorte renoncé au bonheur, ou du moins à la joie. Et vous non plus, mon ami, vous n'étiez pas heureuse. Vous aviez 24 ans. Il y avait en vous une vitalité admirable. Vous n'étiez pas né pour une existence de petites peines ou de petits bonheurs. Vous étiez trop puissante. Je n'ose dire que vous étiez né pour une existence de plaisir. Il y a dans ce mot quelque chose de coupable, ou du moins d'interdit. J'aime mieux dire, mon ami, que vous étiez né pour connaître et pour donner la joie. Il faudrait tâcher de redevenir assez pur pour comprendre toute l'innocence de la joie, cette forme ensoleillée du bonheur. Vous aviez cru qu'il suffisait de l'offrir pour l'obtenir en retour. Je n'affirme pas que vous étiez déçu. Il faut beaucoup de temps pour qu'un sentiment se transforme en pensée. Vous étiez seulement triste. Ainsi, je ne vous aimais pas. Vous aviez renoncé à me demander ce grand amour que sans doute aucune femme ne m'inspirera jamais, puisqu'il ne m'est pas donné de l'éprouver pour vous, mais cela, vous l'ignoriez. Vous étiez trop raisonnable pour ne pas vous résigner à cette vie sans issue, mais vous étiez trop saine pour ne pas en souffrir. La souffrance que l'on cause est celle dont on s'aperçoit la dernière, et puis vous la cachiez. Dans les premiers temps, je vous crus presque heureuse. Vous vous efforciez en quelque sorte de vous éteindre pour me plaire. Vous portiez des vêtements sombres, épais, dissimulant votre beauté. Parce que le moindre effort de parure m'effrayait, vous le compreniez déjà, comme une offre d'amour. Sans vous aimer, je m'étais pris pour vous de l'affection la plus inquiète. Une absence d'un moment m'attristait tout un jour, et l'on aurait pu savoir si je souffrais d'être éloigné de vous ou si, tout simplement, j'avais peur d'être seul. Moi-même, je ne le savais pas. Et puis, j'avais peur d'être ensemble, d'être seul ensemble. Vous aviez à cette époque des insomnies intolérables. J'avais moi aussi du mal à m'endormir. Nous simulions la présence du sommeil pour n'être pas forcés de nous plaindre l'un l'autre, ou bien vous pleuriez. Vous pleuriez le plus silencieusement possible pour que je ne m'en aperçusse pas, et je feignais alors de ne pas vous entendre. Il vaut peut-être mieux ne pas s'apercevoir des larmes lorsqu'on ne peut les consoler. Mon caractère changeait. Je devenais fantasque, difficile, irritable, il semblait qu'une vertu me dispensât des autres. Je vous en voulais, de ne pas réussir à me donner ce calme sur lequel j'avais compté et que je ne demandais pas mieux que d'obtenir. J'avais pris l'habitude des demi-confidences. Je vous torturais d'aveux, d'autant plus inquiétants qu'ils étaient incomplets. Nous trouvions dans les larmes une sorte de satisfaction misérable. Notre double détresse finissait par nous unir, autant que du bonheur. Vous aussi, vous vous transformiez. Il semblait que je vous eusse ravi votre sérénité d'autrefois, sans être parvenu à me l'approprier. Vous aviez comme moi des impatiences et des tristesses soudaines, impossibles à comprendre. Nous n'étions plus que deux malades s'appuyant l'un sur l'autre. J'avais complètement abandonné la musique. La musique faisait partie d'un monde où je m'étais résigné à ne plus jamais vivre. On dit que la musique est l'univers de l'âme, cela se peut, mon ami. Cela prouve simplement que l'âme et la chair ne sont pas séparables, et que l'une contient l'autre, comme le clavier contient les sons. Il est dangereux de s'exposer aux émotions dans l'art, lorsqu'on a résolu de s'en abstenir dans la vie. Ainsi, je ne jouais plus, et je ne composais plus. Mon dégoût de la vie s'étendait lentement à ces rêves de la vie idéale, car un chef-d'œuvre, Monique, c'est de la vie rêvée. Il n'était pas jusqu'à la simple joie que cause à tout artiste l'achèvement d'un ouvrage qui ne se fût desséché, ou pour mieux dire, qui ne se fût congelé en moi. Cela tenait peut-être à ce que vous n'étiez pas musicienne. Mon renoncement, ma fidélité n'eussent pas été complets si je m'étais engagé chaque soir dans un monde d'harmonie où vous n'entriez pas. Je ne travaillais plus, j'étais pauvre. Jusqu'à mon mariage, j'avais peiné pour vivre. Je trouvais maintenant une sorte de volupté à dépendre de vous, même de votre fortune. Cette situation un peu humiliante était une garantie contre l'ancien péché. Nous avons tous, Monique, certains préjugés bien étranges. Il est seulement cruel de traduire une femme qui nous aime, mais il serait odieux de tromper celle dont l'argent nous fait vivre. Et vous, si laborieuse, n'osiez blâmer tout haut mon inaction complète. Vous craigniez que je ne vise dans vos paroles un reproche à ma volonté et à ma pauvreté. Je n'ai pas encore dit combien vous désiriez un fils. Je le désirais passionnément aussi. Pourtant, lorsque je sus qu'un enfant nous viendrait, je n'en ressentis que peu de joie. Ce n'est pas au moment où la vie semble absurde et dénuée de but qu'on peut se réjouir de la perpétuer. Cet enfant, dont nous rêvions ensemble, allait venir au monde entre deux étrangers. Il n'était ni la preuve, ni le complément du bonheur, mais une compensation. Nous espérions vaguement que tout s'arrangerait lorsqu'il serait là, et je l'avais voulu parce que vous étiez triste. Vous éprouviez même d'abord quelque timidité à me parler de lui. Cela, plus que toute autre chose, montre combien nos vies étaient restées distantes. Et cependant, ce petit être commençait à nous venir en aide. J'y pensais un peu comme s'il était l'enfant d'un autre. Je goûtais la douceur de cette intimité redevenue fraternelle, où la passion n'avait plus à entrer. Il me semblait presque que vous étiez ma sœur ou quelque proche parente que l'on m'avait confiée et qu'il fallait soigner, rassurer et peut-être consoler d'une absence. Vous aviez fini par aimer beaucoup cette petite créature qui, du moins, vivait déjà pour vous. Mon contentement, si avouable, n'était pas non plus dépouillé d'égoïsme. N'ayant pas su vous rendre heureuse, je trouvais naturel de m'en décharger sur l'enfant. Daniel naquit en juin, à Voroino, dans ce triste pays de la montagne blanche où je suis né moi-même. Vous aviez tenu à ce qu'il vînt au monde dans ce paysage d'autrefois. C'était pour vous comme si vous me donniez plus complètement mon fils. Les dernières semaines de votre grossesse furent pénibles. Un soir, on vint me dire de prier. Je ne priais pas. Je me répétais seulement que sans doute vous alliez mourir. Je craignais de ne pas éprouver un désespoir assez sincère. J'en avais d'avance une sorte de remords. Et puis vous étiez résigné. Vous étiez résigné comme ceux qui ne tiennent pas beaucoup à vivre. Je voyais un reproche dans cette tranquillité. Peut-être sentiez-vous que notre union n'était pas faite pour durer toute la vie et que vous finiriez par aimer quelqu'un d'autre. Avoir peur de l'avenir, cela nous facilite la mort. Je tenais dans mes mains vos mains, toujours un peu fiévreuses. Nous nous taisions tous deux sur une pensée commune, votre disparition possible. Et votre fatigue était telle que vous ne vous demandiez même pas ce que deviendrait l'enfant. Vos cris m'arrivant à travers la porte fermée, avec quelque chose d'inhumain qui me faisait horreur. Je n'avais pas songé à vous imaginer d'avance aux prises avec cette forme tout animale de la douleur, et je m'en voulais de cet enfant qui vous faisait crier. On me fit entrer dans votre chambre pour me montrer l'enfant. Tout maintenant était redevenu paisible. Vous étiez heureuse, mais d'un bonheur physique, fait surtout de fatigue et de libération. Je me sentais timide, devant cet enfant qu'il fallait embrasser. Il m'inspirait non pas de la tendresse ni même de l'affection, mais une grande pitié, car on ne sait jamais devant les nouveau-nés quelle raison de pleurer leur fournira l'avenir. Je me disais qu'il serait vôtre, votre enfant, Monique, beaucoup plus que le mien. Il hériterait de vous non seulement cette fortune qui depuis si longtemps manquait à vos ruineaux, mais il hériterait aussi de vos beaux gestes calmes, de votre intelligence et de ce clair sourire qui nous accueille dans les tableaux français. Du moins, je le souhaite. Je m'étais, par un sentiment aveugle du devoir, rendu responsable de sa vie, qui courait quelques risques de n'être pas heureuse puisqu'il était mon fils. Et ma seule excuse était de lui avoir donné une admirable mère. La naissance de Daniel ne nous avait pas rapprochés, elle nous avait déçus tout autant que l'amour. Nous n'avions pas repris notre existence commune. J'avais cessé de me blottir contre vous le soir, comme un enfant qui a peur des ténèbres. Une pudeur m'empêchera toujours de vous dire combien de fois, durant ces mois d'été, j'ai désiré la mort. Et je ne veux pas savoir si, vous comparant à des femmes plus heureuses, vous m'en avez voulu de vous gâcher l'avenir. Ce fut dans cette tristesse que la musique revint à moi. Un soir, en septembre, je cédais à l'attirance du piano, qui jusqu'alors était resté fermé. J'étais seul dans le salon presque sombre. Je me mis à jouer. Je jouais. Je jouais d'abord avec précaution, doucement, délicatement, comme si j'avais mon âme à endormir en moi. J'interprétais mes souffrances physiques comme un présage funèbre. Je m'étais résolu à me laisser mourir. Abandonnant mon âme au sommet des arpèges, comme un corps sur la vague quand la vague redescend, j'attendais que la musique me facilitât cette retombée prochaine vers le gouffre et l'oubli. Je jouais avec accablement. Je me disais que ma vie était à refaire et que rien ne guérit, pas même la guérison. Je me sentais trop las pour cette succession de rechutes et d'efforts également épuisants. Et cependant, je jouissais déjà dans la musique de ma faiblesse et de mon abandon. Et ce que je regrettais, remontant de pensée en pensée, d'accord en accord vers mon passé le plus intime et le moins avoué, c'était non pas mes fautes, mais les possibilités de joie que j'avais repoussées. Ce n'était pas d'avoir cédé trop souvent, c'était d'avoir trop longtemps et trop durement lutté. Je jouais, désespérément. L'âme humaine est plus lente que nous, elle est toujours un peu en arrière de notre vie présente. Je commençais seulement à comprendre le sens de cette musique intérieure, de cette musique de joie et de désir sauvage que j'avais étouffée en moi. Ce qui maintenant naissait de l'instrument où, pendant 2 années, j'avais séquestré tout moi-même, ce n'était plus le chant du sacrifice, ce n'était même plus celui du désir ni de la joie toute proche, c'était la haine. La haine pour tout ce qui m'avait falsifié, écrasé si longtemps. Je pensais avec une sorte de cruel plaisir que de votre chambre vous m'entendiez jouer. Je me disais que cela suffisait comme aveu et comme explication. Et ce fut à ce moment que mes mains m'apparurent. Mes mains reposaient sur les touches, deux mains nues, sans bague, sans anneau. Et c'était comme si j'avais sous les yeux mon âme deux fois vivante. Mes mains me semblaient tout à coup extraordinairement sensitives. Même immobiles, elles paraissaient effleurer le silence comme pour l'inciter à se révéler en accord. Elles reposaient, encore un peu tremblantes du rythme. Et il y avait en elles tous les gestes futurs, comme tous les sons possibles dormaient dans ce clavier. Elles avaient noué autour des corps la brève joie des étreintes. Elles avaient palpé sur les claviers sonores la forme des notes invisibles. Elles avaient, dans les ténèbres, enfermé d'une caresse le contour des corps endormis. Souvent, je les avais tenus levés dans l'attitude de la prière. Souvent, je les avais unis aux vôtres. Mais de tout cela, elles ne se souvenaient plus. C'étaient des mains anonymes, les mains d'un musicien. Mes mains, Monique, me libérait de vous. Elle pouvait de nouveau se tendre sans contrainte. Elle m'ouvrait, mes mains libératrices, la porte du départ. Peut-être, mon ami, est-il absurde de tout dire, mais ce soir-là, gauchement, à la façon dont on scelle un pacte avec soi-même, j'ai baisé mes deux mains. La vie m'a fait ce que je suis. Prisonnier, si l'on veut, d'instinct que je n'ai pas choisi, mais auquel je me résigne, et cet acquiescement, je l'espère, à défaut du bonheur, me procurera la sérénité. Mon ami, je vous ai toujours cru capable de tout comprendre, ce qui est bien plus rare que de tout pardonner. Et maintenant, je vous dis adieu. Je pense avec une infinie douceur à votre bonté féminine, ou plutôt maternelle. Je vous quitte à regret, mais j'envie votre enfant. Vous étiez le seul être devant qui je me jugeais coupable, mais écrire ma vie me confirme en moi-même. Je finis par vous plaindre sans me condamner sévèrement. Je vous ai trahi. Je n'ai pas voulu vous tromper. Vous êtes de celles qui choisissent toujours par devoir la voie la plus étroite et la plus difficile. Je ne veux pas, en implorant votre pitié, vous donner un prétexte pour vous sacrifier davantage. N'ayant pas su vivre selon la morale ordinaire, je tâche du moins d'être d'accord avec la mienne. C'est au moment où l'on rejette tous les principes qu'il convient de se munir de scrupules. J'avais pris envers vous d'imprudents engagements que devait protester la vie. Je vous demande pardon, le plus humblement possible. Non pas de vous quitter, mais d'être resté si longtemps.
Alexis de Marguerite Yourcenar. Merci beaucoup, Sam. Merci beaucoup, Benoît.